Merci. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille présenter Charles Malamud. Je dirais juste qu'il est directeur d'études à l'EPHE, qu'il est indianiste, bien sûr. Et je le laisse parler tout de suite.
Merci. Je ne me sens pas tenu... Oui, je disais, je ne me sens pas tenu de toujours m'enfermer dans mon statut d'indianiste quand je lis Jean-Pierre Vernant ou quand je parle de lui. Mais cette fois, dans ce colloque organisé par des hellénistes et devant une assemblée constituée principalement d'hellénistes, je vais être fidèle à ma définition. Et c'est en indianiste que je vais essayer de remplir ma tâche. Principalement par gratitude et pour prendre conscience et vous faire savoir que ma démarche d'indianiste a été constamment ponctuée par ma lecture de Jean-Pierre Vernant et que souvent les configurations indiennes devant lesquelles je me trouvais prenaient sens par une sorte de contraste que je pouvais établir avec ce que Jean-Pierre Vernant m'apprenait de la Grèce. J'en viens à mon sujet. Nous tous qui avons écouté Jean-Pierre Vernant, qui l'avons entendu parler en public et avec qui il a parlé en dialogue, avons le bonheur de pouvoir retrouver sa voix grâce aux nombreux enregistrements qui en ont été faits. Et je dois dire que c'est un réconfort pour nous que de savoir que cela ne sera pas perdu, que les plus jeunes qui n'ont pas connu Jean-Pierre Vernant vivant pourront eux-mêmes faire l'expérience de ce qui pour nous est désormais au premier chef un souvenir que nous avons, il est vrai, le moyen de raviver sans cesse. Du reste, pour nous, à la simple lecture de ces textes, nous retrouvons le grain de sa voix, la force, l'intensité de sa diction. Entre ce qu'il disait publiquement et ce qu'il écrivait, finalement, il n'y a pas de différence de style, c'est la même force, c'est la même clarté, c'est la même densité. Ce qui, en revanche, n'est pas transmissible et périra avec nous, c'est la façon qu'il avait de s'installer dans l'écoute, de s'immobiliser dans une attention totale. Mais comment il recevait ce qu'il entendait se révèle aussi dans ce qu'il disait lui-même après avoir entendu, se révèle dans la lumière qu'il projetait sur tout cela, dans les horizons qu'il ouvrait. Et cela, dans une grande mesure, se retrouve dans ses écrits et donc demeure. Ses propos sur la voix et l'écoute de Vernant sont là pour introduire quelques remarques qui portent sur la pensée de Vernant à propos de la voix et de l'écoute en Grèce. Quand on regarde l'index très détaillé, extrêmement utile, qui figure à la fin des deux volumes des œuvres publiées aux éditions du Seuil, on est frappé par la disproportion entre les termes très nombreux et richement fournis de références qui concernent le domaine du voir et du faire voir, et ceux très rares qui relèvent du domaine du sonore. On cherche en vain les entrées bruit, son, silence, voix, musique, écouter, entendre, ou leurs équivalents grecs. Il y en a quelques-uns, mais si rares. Alors que les termes correspondants, et beaucoup d'autres, dans le domaine du visible forment une longue liste et renvoient à un nombre impressionnant de passages. Pour une part, ce déséquilibre dans l'index tient à une sorte de parti pris inconscient, je suppose, des auteurs de cet index. Par exemple, il n'y a pas d'entrée récitation ou rythme alors que ces notions sont maintes fois mentionnées, par exemple, page 240 et suivante. Pas d'entrée musique, je l'ai dit, ni instrument de musique, alors que les aspects sonores du masque de Gorgo, pour reprendre le titre de Jean-Pierre Vernant, sont l'occasion de tout un développement sur les instruments, les sonorités, les hennissements, les grincements, les clameurs. Mais il faut reconnaître aussi que cette dissymétrie dans l'index entre le voir et l'entendre, le faire voir et le faire entendre, se constate dans une moindre mesure, certes, mais réellement, dans l'œuvre elle-même. Et je voudrais dire quelques mots sur la démarche à laquelle se livre Jean-Pierre Vernant pour rendre compte de ce qui est sans doute une donnée inhérente au texte grec même, une manière grecque, un style grec de présence au monde, pour reprendre une expression que Vernant emprunte à Gérard Simon. À trois ou quatre même reprises, Jean-Pierre Vernant raconte, paraphrase, commente l'histoire d'Ulysse et des sirènes. On sent, à le lire, le plaisir extrême qu'il prend à conter cette histoire, et c'est un exemple de cette attitude devant le mythe que nous rappelait tout à l'heure Barbara Cassin, cette attitude voluptueuse, disons, devant le mythe. Combinant, imbriquant le récit dans l'analyse, il insiste sur le contraste entre le chant de séduction que font entendre les sirènes et le spectacle qui s'offre à la vue d'Ulysse et de ses compagnons. Ce qui se fait entendre, c'est la promesse d'un récit. Le récit, quant à lui, est véridique. Le récit que promettent de faire les sirènes. Ce récit est véridique car il contient la liste, ou il annonce la liste des exploits qu'Ulysse a accomplis et qui lui vaudront une gloire impérissable. La promesse, elle, est fallacieuse. Il n'est pas vrai, comme elles le disent, qu'heureux de ce qu'il aura entendu, riche de ce nouveau savoir, il pourra rentrer chez lui. En effet, quiconque cède à l'appel des sirènes est destiné à périr sur place d'une mort épouvantable. D'un autre côté, ce que voient Ulysse et ses compagnons, tout au moins c'est ce que annonce Circé, c'est le spectacle qu'elle annonce à Ulysse et à ses compagnons, ce sont des tas de cadavres qui pourrissent au soleil sur la plage. Je vais le citer. Ces sirènes, je cite ici le texte de Jean-Pierre Vernant, dans L'individu, la mort, l'amour, elles promettent, ces sirènes, en effet, à Ulysse qu'après avoir goûté au plaisir de leur chant, il repartira, il reprendra la mer jusque chez lui, vers chez lui, mais plus avant d'un savoir appris de tout ce qu'elles savent. Et ce savoir dont elles dispensent le secret, c'est ce que chantent les Aèdes, ce qui s'est déroulé à Argos et sous les murs de Troie, tout ce qui s'est passé autrefois sur la terre et qui, pour devenir objet du chant louangeur, a dû d'abord disparaître et basculer dans l'invisible. Quand Laède évoque les muses, c'est pour faire revivre devant les hommes d'aujourd'hui les hauts faits des héros d'antan. Les sirènes sont l'envers des muses. Leur chant a le même charme que celui des filles de mémoire. Elles dispensent, elles aussi, un savoir qu'on ne peut oublier, mais qui cède à l'attrait de leur beauté, à la séduction de leur voix, à la tentation de la connaissance qu'elles détiennent, ne pénètre pas pour y demeurer à jamais dans la splendeur d'une renommée éternelle. Il aborde un rivage tout blanchi d'ossements et de débris humains, dont les chairs se corrompent. S'il est donné à l'homme vivant d'entendre par avance le chant qui dira sa gloire et sa mémoire, ce qu'il découvre, ce n'est pas la belle mort, la gloire immortelle, mais l'horreur du cadavre et de la décomposition, l'affreuse mort. La mort est un seuil, on ne peut le passer en restant vivant. Au-delà du seuil, de l'autre côté, le beau visage féminin qui vous attire et vous fait signe est une face de terreur, l'indicible. Le charme des sirènes, la séduction de leur corps, la douceur de leur voix, rejoignent pour l'homme implanté dans sa vie mortelle l'horrifiante grimace de Gorgo et la stridence qui glace les cœurs de son hurlement inhumain. Ce que font entendre les sirènes n'est pas moins vrai en un sens que ce qui se donne à voir à Ulysse et à ses compagnons. Mais la vérité du chant est assortie d'un mensonge. La vérité du spectacle, elle, est la réalité muette, vraie de part en part, indice de l'indicible. Dans son introduction au volume collectif « L'homme grec », paru en français en 1993, Vernant aborde de front ce thème, c'est-à-dire qu'il ne l'aborde pas en comparant explicitement le voir et l'entendre, mais en montrant en quoi consiste, sur quoi se fonde, pour la pensée grecque, l'éclatante prééminence du visuel. Ce texte de Jean-Pierre Vernant, c'est dans cette introduction, donc, au volume qu'il a dirigé, est, je pense, une réponse indirecte et ne se présentant pas comme telle à l'article de Charles Segal dans le même volume intitulé « L'homme grec, spectateur et auditeur ». C'est un article tout en nuances, très équilibré, très savant, je crois, et dans lequel Charles Segal, eh bien, montre comment, avec quelle délicatesse, si je puis dire, l'homme grec est évidemment, comme tout homme, à la fois spectateur et auditeur, mais il le montre en étudiant en détail ce qui concerne la tragédie. Mais Jean-Pierre Vernant, dans cette introduction très, très vigoureuse, très enthousiaste, nous dit que dans la culture grecque, je le cite, le voir a un statut privilégié. Il est valorisé jusqu'à occuper dans l'économie des capacités humaines une position sans égale. Et le mieux, je pense, est que je cite ce passage qui est exemplaire à beaucoup de titres. Avec l'univers animé auquel tout le rattache, l'homme, il s'agit de l'homme grec, est dans un rapport d'intime communauté. un exemple pour mieux faire comprendre ce que Gérard Simon appelle un style de présence au monde et de présence à soi que nous ne pouvons plus saisir sans un sérieux effort de distanciation méthodique exigeant une véritable restitution archéologique. Je veux parler de la vue et de la vision. Dans la culture grecque, le voir a un statut privilégié, il est valorisé, c'était la citation que, enfin, j'ai déjà cité ce passage, jusqu'à occuper dans l'économie des capacités humaines une position sans égale. D'une certaine façon, l'homme est regard, dans sa nature même, et cela pour deux raisons, l'une et l'autre décisives. En premier lieu, voir et savoir, c'est tout un. Si idein, voir, et eidenai, savoir, sont deux formes verbales d'un même terme, si eidos, apparence, aspect visible, signifie également caractère propre, forme intelligible, c'est que la connaissance est interprétée et exprimée sur le mode du voir. Connaître est une forme de vision. En second lieu, voir et vivre, c'est aussi tout un. Pour être vivant, il faut à la fois voir la lumière du soleil et être visible aux yeux de tous. Quitter la vie signifie perdre en même temps la vue et la visibilité, abandonner la clarté du jour pour pénétrer dans un autre monde, celui de la nuit, où perdu dans la ténèbre, on est dépouillé tout ensemble de sa figure et de son regard. Mais ce que développe ensuite Vernant, en citant Gérard Simon d'une part et Charles Mugler d'autre part, c'est l'idée qu'il existe, en dehors des pratiques et des attitudes et que nous font connaître les textes, qu'il existe une véritable théorie de la vision qui n'est pas forcément construite en doctrine, mais que l'on peut reconstituer, qui est sous-jacente à ce qui se dit dans tous les textes, quel que soit leur caractère, et qui fait que, et selon laquelle, je reprends ma citation, selon laquelle le voir est tout le contraire d'une attitude de réception passive. Je prends le texte, mais ce voir, d'autant plus précieux qu'il est connaissance et vie, les Grecs ne l'interprètent pas comme nous le faisons depuis Descartes, entre autres, et passé par là, en distinguant trois niveaux dans le phénomène visuel, la lumière d'abord, réalité physique, qu'elle soit onde ou corpuscule, l'organe de l'œil ensuite, montage optique, sorte de boîte noire dont la fonction est de projeter sur la rétine une image de l'objet, enfin l'acte proprement psychique de percevoir à distance l'objet regardé. Entre l'acte final de perception qui suppose une instance spirituelle, une conscience, un jeu et le phénomène matériel de la lumière, il y a ce même fossé qui sépare le sujet humain du monde extérieur. Mais alors non, chez les Grecs, la vision n'est possible que s'il existe entre ce qui est vu et ce qui voit une entière réciprocité, traduisant sinon une identité complète, du moins une très proche parenté. Parce que le soleil éclaire toute chose, il est aussi dans le ciel un œil qui voit tout, et si notre œil voit, c'est qu'il irradie une sorte de lumière comparable à celle du soleil. Le rayon lumineux qui émane de l'objet et le rend visible est de même nature que le rayon optique issu de l'œil qui le rend voyant. L'objet émetteur et le sujet récepteur, les rayons lumineux et les rayons optiques, appartiennent à une même catégorie de réalité dont on peut dire qu'elle ignore l'opposition physique-psychique ou qu'elle est à la fois d'ordre physique et psychique, la lumière et vision, la vision est lumineuse. Et cette vision active, eh bien, fait que l'homme perçoit que le monde est beau comme un dieu, dit Vernant. Alors, il s'agirait, mais ça je ne peux pas entrer dans ces considérations-là, il s'agirait de voir comment cette vision lumineuse, cette vision qui est lumière, se combine avec l'idée si amplement développé que il y a des regards de mort, que la mort est dans les yeux de la Gorgone. Et c'est certainement tout à fait explicable, compatible, mais il faut voir dans quel cadre ces données sont coprésentes. La constatation que le voir l'emporte sur les autres modes d'appréhension du réel, dans le cas de la Grèce, et dans le cas de la Grèce telle que nous l'a fait connaître Vernon, n'est pas empirique. Elle ne se fonde pas sur des impressions, elle se fonde, disais-je, sur une théorie de la vision élaborée par les Grecs eux-mêmes, explicite ou sous-jacente, aussi bien chez les philosophes que chez les poètes. Jean-Pierre Vernant résume donc cette théorie et en décrit les conséquences majeures. Notre regard opère dans le monde où il trouve sa place, comme un morceau du monde. Eh bien, pour le dire vite, on ne saurait dire que notre oui est active de cette façon. Écho n'est pas la contrepartie sonore de Narcisse. Elle n'en est que le piètre complément. J'en viens à l'Inde. S'il était possible de rédiger un homme indien sur le modèle de l'homme grec, ce dont je doute fort pour bien des raisons, il faudrait mettre en relief, au contraire, le rôle du sonore et de l'audition, rôle primordial, du moins dans la tradition sanscrite. Comme partout, probablement, en Inde, en sanskrit, le type même de la perception est certes la perception visuelle. Connaître, c'est avant tout voir. Ce sont les diverses racines qui signifient voir et regarder qui fournissent les termes signifiant théorie, point de vue, doctrine, corpus de savoir, évidence, investigation. Ce qui est obscur, secret, c'est ce qui se dérobe à la vue, paroksha, même quand il s'agit du sens d'un mot ou d'une phrase. Les rites védiques ont été révélés, littéralement ont été vus, par ceux qui, les premiers, en ont eu l'intuition. Bien mieux, le Veda lui-même a d'abord été vu par des personnages doués de pouvoirs surnaturels, dont le nom sanskrit est rattaché par la tradition indienne à une racine qui signifie « voir ». Le théâtre indien est défini avant tout comme un spectacle, le public est fait de spectateurs. On donne vie à une statue de divinité en lui dessinant les yeux, etc., etc. Cela posé, il faut insister sur un fait propre à l'Inde, je le répète, malgré tout ce que je viens de dire, et qui est la prééminence théorisée du sonore. Je prends un exemple facile, celui du théâtre. Comme en Grèce, il y a des actes qu'il est impossible, interdit de représenter sur scène. En Grèce, ces actes sont l'objet d'un récit. En Inde, ils sont représentés, mais en coulisses, derrière le rideau. Le spectateur, auditeur en l'occurrence, entend ce qui est en train de se faire sans le voir. Souvent, un dialogue s'instaure entre un personnage qui est sur la scène et son interlocuteur qui entend parler derrière le rideau et dont les propos sont répétés par celui qui est sur la scène à mesure qu'ils sont proférés. Et il arrive aussi, souvent, qu'une voix céleste, invisible, se fasse entendre, un être qui n'est pas autre chose que cette voix même et qui énonce des vérités ou annonce des événements décisifs. Souvent, surtout au début d'un acte, on entend d'abord en coulisses la voix des personnages et c'est dans un deuxième temps qu'ils apparaissent sur scène répétant ce qu'ils disaient avant d'être rendus visibles. Mais il ne s'agit pas seulement de procédés scéniques. Dans les prologues des pièces de théâtre, le directeur de scène affirme son souci de donner au public quelque chose qui plaira à ses oreilles. Les spectateurs, de leur côté, concentrés sur les sons qu'ils entendent, sont immobiles et, aux yeux du directeur qui les contemple, ils sont comme un tableau. Ces détails menus de la représentation dramatique ne sont que des indices d'un ensemble d'idées, d'une théorie en somme, maintes fois affirmée tout au long des siècles sous diverses formes. Premièrement, que les organes sensoriels et leurs domaines respectifs correspondent chacun à un élément du cosmos. La vision et l'œil, par exemple, correspondent à, ont une affinité avec, le feu. L'audition, l'oreille, correspondent à l'akasha, terme qui désigne à la fois l'éther et l'espace omniprésent qui abrite les points cardinaux. C'est ce domaine du sonore, à l'exclusion de tous les autres, qui est invoqué en tant que tel dans la bénédiction liminaire de la pièce de théâtre la plus célèbre du théâtre indien, la Shakuntala de Kalidasa. Deuxièmement, l'idée que les mots du langage articulé sont faits de sons, lesquels ne sont que des réalisations fugaces des sens sonores éternels. Troisièmement, sur un autre plan, il y a le fait qu'un même mot, shabda, désigne le mot du langage, le mot doué de sens et toute espèce de bruit. De même, la déesse parole incarne tous les mots et tous les assemblages de mots doués de sens, avant tout le Veda lui-même, mais elle est aussi la voix comme telle, comme émission de son. Souvent, elle est en rivalité ou en relation de complémentarité avec la pensée. Cette parole divinisée, tant célébrée, n'est pas le logos. Enfin, la réalité suprême, l'absolu, comme nous disons pour traduire le terme Brahman, est définie dans les spéculations indiennes tout au long des siècles comme un son, shabda, impérissable et indécomposable. Il n'y a pas, et on peut même difficilement imaginer, en dehors du contexte technique moderne, il n'y a pas d'image sonore d'une réalité sonore. Mais il y a des images visibles des réalités sonores, des images qui ne sont pas des signes, des images qui ne sont pas censées représenter comme des signes d'écriture, par exemple. Tel mot ou comme des dessins destinés à représenter des réalités qui portent des noms. Non, il y a des images qui figurent la réalité sonore en tant que telle. Je fais allusion à un rite védique auquel je me réfère souvent parce qu'il m'intrigue beaucoup, qui est celui-ci. Au moment d'entreprendre un grand sacrifice solennel, on fait venir sur le terrain une vache qui est censée symboliser la parole elle-même, la déesse parole. Et on fait faire à cette vache 7 pas. Le mot pas en sanskrit signifie le pada Et il a cette particularité de signifier également mot. Et de cette polysémie que jouent les ritualistes, il découpe dans la glaise, dans la glèbe, les traces de ses pas et les considère comme étant le mot en tant que tel matérialisé. Et il disperse sur l'ensemble du terrain du sacrifice ces mottes marquées du pas de la vache qui sont aussi des images du mot en tant que tel, c'est-à-dire de l'unité de langage. Alors, cette comparaison entre le statut du visuel et le statut du sonore en Grèce et dans l'Inde, cette comparaison porte-t-elle sur un bon comparable ? Car nous sommes tous, je pense, à la recherche des objets et des méthodes de la comparaison. En tout cas, Jean-Pierre Vernant nous a guidés dans cette voie. Eh bien, je pense que oui, à condition de faire comme Vernant lui-même l'a fait pour mettre en lumière la primauté du visuel en Grèce, à condition de trouver dans les textes mêmes des civilisations respectives que nous étudions des bribes, des fragments de raisonnement qui montrent que il ne s'agit pas seulement de pratiques en quelque sorte je ne dirais pas inconscientes mais auxquelles on ne réfléchit pas, mais que il s'agit là d'attitudes, de gestes, de positions qui font l'objet d'une élaboration constante. Pour terminer, me repliant sur ce qui fait la caractéristique de l'Inde telle que j'ai essayé de vous l'exposer, et pour souligner cette valeur suprême attribuée au sonore, eh bien, je citerai une strophe d'un poète indien qui est aussi un dramaturge et qui ouvre une de ses pièces par cette invocation. Il dit : nous célébrons la voix, Vani, nous célébrons la voix, partie immortelle de l'âme.